Décryptage, Marie Casadebé.
Le camp de Dadaab, dans l'est du Kenya, il a détenu un temps un triste record, celui du plus grand camp de réfugiés au monde, jusqu'à 600 000 personnes en 2011. Aujourd'hui, il en abrite encore plus de 200 000 que les autorités kenyanes souhaiteraient voir quitter les lieux. Dans une lettre que RFI a pu consulter, le gouvernement kenyan demande officiellement au Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies de fermer le site, invoquant des raisons de sécurité. Pourquoi une telle requête? Quelles conséquences pour les occupants du temps du camp, parfois né sur place? Nos invités vont nous éclairer. Bienvenue dans Décryptage. Bonsoir Sébastien Nemeth.
Bonsoir Marie.
Vous êtes en duplex avec nous de Nairobi, vous êtes le correspondant permanent de RFI. Nous sommes aussi en ligne de Nairobi avec Sarah Blin. Bonsoir.
Bonsoir.
Chef de délégation de l'ONG suisse Terre des Hommes au Kenya, une ONG qui vient en aide à des enfants du camp de Dadaab depuis 2011. Sarah Blin, l'histoire de ce site commence en 1991 avec l'installation de quelques tentes. Près de 30 ans après, comment décririez-vous ce camp de réfugiés?
Alors c'est vrai que c'est un immense camp, c'est le deuxième plus grand camp au monde après celui au Bangladesh. Aujourd'hui ça ressemble à une ville, donc dans une zone semi-aride à 100 km de la frontière avec la Somalie. C'est immense, hein, 200 000 personnes, c'est la taille de Yamoussoukro, donc on peut imaginer la densité de population. Les gens vivent dans des habitations faites de tôles et de torchis. Certains sont encore dans des tentes, mais c'est un camp qui est très organisé, avec une délimitation très claire des zones d'habitation. Mais il y a aussi des marchés, il y a des routes, des stations de bus. Enfin, ça fonctionne vraiment comme une ville aujourd'hui d'Adab.
On parle d'un camp, mais c'est en réalité un ensemble de camps.
Oui, donc il y a trois camps, il y en avait cinq, donc aujourd'hui il y a trois camps plus une extension. Terre des Hommes travaille dans le camp le plus étendu, donc il accueille 74 000 réfugiés. Effectivement, c'est trois camps aujourd'hui qui sont concernés par cette fermeture.
Mais alors ces trois camps et finalement ces cinq au début racontent aussi l'histoire de ce camp qui se construit au fur et à mesure des crises. De quelles crises parle-t-on et finalement de quels réfugiés ?
Alors, le camp a été ouvert à la suite de la guerre civile en Somalie en 91-92. L'afflux a été continu. Puis en 2011, il y a eu une famine en Somalie qui a amené encore plus de gens. Et donc là, c'était vraiment une situation très compliquée en termes de gestion de l'espace et de gestion des services. Et c'est à partir de ce moment-là que Terre des Hommes est intervenue auprès des enfants. Et puis depuis 2011, donc il y a eu des discussions entre la Somalie, le Kenya, le HCR, puisque la majorité de la population de ce camp est d'origine somalienne, hein, donc pour un peu décider de l'avenir du camp. Donc en 2016, au milieu d'une sécheresse qui sévissait en Somalie, le gouvernement kényan a eu des velléités effectivement de fermer ce camp, une décision qui a ensuite été annulée par la justice kényane.
On va y revenir, voilà. Sarah Blin, justement sur l'avenir de ce camp. Sébastien Nemeth, vous avez eu accès à cette lettre officielle adressée par le Kenya aux Nations Unies pour demander la fermeture de ce camp. On l'a déjà compris, la fermeture de Dadaab, c'est un peu un serpent de mer, hein, puisque c'est pas la première fois que le gouvernement exprime cette ambition, ce souhait de le voir disparaître.
Oui, et d'ailleurs, c'est souvent la même situation. Le Kenya demande la fermeture de Dadaab après une attaque terroriste d'envergure. On l'a vu en 2013 après celle du centre commercial de Westgate, 67 morts. À la suite de ça, le Kenya et le HCR avaient signé un accord pour lancer un plan de rapatriement volontaire en Somalie, et ça continue. 2015 aussi, après l'attaque contre l'université de Garissa. 2016... Là, officiellement, pour des raisons de sécurité nationale, encore une fois, les spécialistes ont parlé à l'époque d'une déclaration plutôt électoraliste, hein, du président Kenyatta, puisque, comme par hasard, quelques semaines avant, il était entré en campagne pour les élections de 2017. Une cour de justice kényane avait en tout cas, par la suite, jugé cette demande de fermeture illégale et anticonstitutionnelle. Puis enfin, en ce début d'année, juste après l'attaque contre le complexe hôtelier du site de Nairobi, qui a fait 21 morts. Chaque fois, le plan kényan est, comment je pourrais dire, un peu contrecarré pour des raisons très diverses. On va en reparler, hein, politique, diplomatique, logistique, légale aussi. Hein, le pays a quand même signé plusieurs conventions internationales au fil des décennies, et puis ça se heurte à un principe de droit humanitaire qui est fondamental, que Sarah Blin connaît bien mieux que moi, qui est celui du non-refoulement. En gros, on ne peut pas renvoyer un réfugié dans un endroit où risque des persécutions. Mais quand même, certains spécialistes s'interrogent, est-ce qu'à chaque fois le Kenya cherche vraiment à fermer complètement Dadaab ou plutôt à faire pression sur le commissariat aux réfugiés pour un peu lui montrer que la situation s'éternise, que c'est pas acceptable, que l'ONU doit faire plus? C'est une possibilité dans un contexte où il y a d'autres crises dans le monde qui attirent énormément d'aide humanitaire, de fonds et d'attention médiatique, la Syrie, l'Irak, etc. Marie.
Alors effectivement, vous évoquiez la décision de la Haute Cour kenyane en février 2017. Je précise juste, elle avait rendu illégale la fermeture pour violation des obligations internationales du Kenya en ordonnant le rapatriement dans leur pays de réfugiés somaliens contre leur volonté. Toujours les mêmes raisons invoquées par le Kenya, des questions de sécurité. On va y revenir. À chaque annonce, en tout cas, la crainte des ONG pour l'avenir des réfugiés, alors que la Somalie est toujours en proie à l'insécurité. La réaction de l'une d'entre elles en 2015, le Conseil norvégien pour les réfugiés, par la voix d'une de ses membres, Wairi Mumuni.
Les ressources sont déjà rares dans les lieux qui sont concernés. La terre est une ressource très importante. Le risque, c'est de voir ces personnes originaires de ces lieux se retrouver déplacées à l'intérieur de leur propre pays.
Sarah Blin, on l'a évoqué en 2015 déjà, le gouvernement kényan avait encouragé certains réfugiés à rentrer chez eux en Somalie. Le camp d'ailleurs a commencé à se désemplir. Comment cela se passe dans ces cas-là? Comment sont organisés les retours?
Alors, les retours sont organisés en collaboration avec le HCR, qui a la responsabilité de faire transiter ces populations. Terre des Hommes s'occupe en particulier du cas des enfants. Donc, pour chaque famille qui souhaite rentrer ou chaque membre de famille qui souhaite rentrer, on organise une conférence pour déterminer le meilleur intérêt de l'enfant. Et au cours de cette discussion entre les différents acteurs dans le camp, donc ceux qui s'occupent de la santé, de l'éducation et dans notre cas de la protection de l'enfance, on regarde quelle a été la situation de l'enfant dans le camp et quelle va être la situation de cet enfant et de sa famille en Somalie. Et effectivement, les conditions de sécurité, l'accès aux services dans le pays de retour sont déterminants pour nous pour confirmer que le retour, donc qui est forcément un retour volontaire, puisse se faire dans de bonnes conditions. Et à ce moment-là, les familles sont rapatriées soit par avion, surtout en saison des pluies, soit par bus, et ils reçoivent une somme d'argent, donc c'est entre 200-300 dollars, et puis un certain nombre d'équipements pour les aider à se réinstaller. Voilà, donc nous c'est le processus qu'on a accompagné finalement pour dans l'ensemble du camp de Dadaab pour 83 000 personnes jusqu'en 2017 finalement.
Est-ce que vous avez le sentiment que les familles veulent rentrer, cherchent à rentrer ou le sentiment qui domine c'est plutôt l'inquiétude aussi de ce qu'ils vont retrouver, leur pays et ce qu'ils ont laissé peut-être il y a des années maintenant?
Oui, c'est difficile. Bon, évidemment, je pense que pour tout le monde, il y a un désir de rentrer chez soi et retrouver ses racines. Mais c'est vrai que le camp, quand même, aujourd'hui, 44% des enfants sont nés dans le camp. Donc, il y a une deuxième, troisième génération qui est vraiment née sur le sol kényan et qui connaît pas ce pays d'origine, justement. Parmi les personnes qui sont rentrées suite à ces rapatriements volontaires, il y en a près de 12 000 qui sont revenus. Et ce qu'on entend de leur situation en Somalie, c'est que les conditions ne sont pas favorables. Donc les jeunes garçons se plaignent de violences et de tentatives de recrutement. Les services publics ne sont pas au point. Hein. C'est un pays encore très fragile, la Somalie. Donc oui, il y a une volonté, mais effectivement, ce qui se dit dans le camp, c'est que c'est pas forcément, c'est pas pas forcément idéal. Ouais. Voilà. Mais ce qui est important aussi de comprendre dans ces populations, c'est que ce sont des pastoralistes et que les clans ne suivent pas du tout les frontières politiques entre la Somalie et le Kenya. Donc il y a sans cesse des mouvements d'entrée et de sortie du camp et entre les deux pays. Donc l'accès au pays, il est là en quelque sorte. La question, c'est vraiment est-ce qu'on peut se réinstaller en Somalie.
Ça veut dire qu'il y a parfois un gouffre entre l'envie, l'appréhension du pays et finalement la réalité qu'ils découvrent à leur retour. Ces gens qui sont revenus ne s'imaginaient pas retrouver ça, découvrir cette situation de leur pays.
Bon, je pense que la situation aussi bien dans le camp qu'en Somalie est difficile. Ce sont des personnes qui ont très peu de ressources, qui vivent beaucoup de l'aide des familles étendues, des gens qui ont pu être réinstallés dans des pays occidentaux, par exemple, ou dans des pays voisins. Voilà, ce sont vraiment. Enfin, nous, on travaille avec des enfants qui sont dans des situations de vulnérabilité extrême, liées au contexte, mais aussi à des pratiques culturelles. Donc, il y a beaucoup de filles qui sont mariées très tôt, qui ont des grossesses précoces. Il y a beaucoup de violences domestiques, des viols. Tout ça, c'est lié aussi au stress de la vie quotidienne. Et ça, nous ne travaillons pas en Somalie, mais c'est des situations qui sont identiques finalement en Somalie et dans le camp de réfugiés. Donc dans le camp de réfugiés, les personnes sont effectivement protégées et reçoivent un certain nombre de services. Voilà, effectivement depuis ces annonces du gouvernement et dans le cadre aussi d'une tentative d'aider ces réfugiés à peut-être s'intégrer dans le district de Garissa, donc l'endroit où le camp est installé, on a beaucoup travaillé à quoi ressemblerait cette transition si ces réfugiés, surtout ceux qui sont nés au Kenya, devaient rester. Et là, pour nous, ça c'est important parce que ça implique aussi que les autorités kenyanes puissent continuer à se sentir responsables de ces enfants nés sur le territoire kenyan. Parce qu'aujourd'hui, ce sont des services fournis par les ONG à 100%.
Quoi. Alors justement, Nairobi a déjà mis en avant aussi le problème des réductions de crédit aux ONG. Est-ce que vous avez constaté un épuisement des donateurs? Sébastien Némette évoquait les autres crises actuellement dans le monde qui appellent énormément de fonds. Est-ce que vous avez senti que l'intérêt, les fonds pour Dadaab s'était réduit ces dernières années?
Oui, les fonds se sont réduits. Après, c'est en partie peut-être une question de priorisation de crise, mais aussi parce qu'il y a eu ces discussions avec le Kenya sur, dans le cadre aussi de leur nouvelle constitution, sur un peu un rééquilibrage des ressources. Bon, c'est une situation classique dans les situations de réfugiés, hein, que les communautés hôtes se sentent un peu lésées et qu'elles voient que les réfugiés bénéficient de plus de services. Souvent, ce sont des perceptions fausses, mais en tout cas, elles sont bien là. Et donc, dans ce cadre, les bailleurs ont rééquilibré l'aide qu'ils donnaient au camp plutôt en faveur des communautés hôtes dans l'espoir qu'il y ait effectivement peut-être un démantèlement du camp. Voilà, mais c'est vrai qu'aujourd'hui il n'y a pas une ligne très claire de ce que va apporter l'avenir. Ouais.
Alors l'argument en tout cas le principal hein, pour Nairobi, pour réclamer donc la fermeture de ce camp de Dadaab, c'est des questions sécuritaires. Le gouvernement kényan estime que le camp est utilisé comme, je cite, une base pour des activités mettant en danger la sécurité nationale, notamment le terrorisme. Une menace qui pèse sur le camp, comme le racontent ces deux réfugiés somaliens que vous avez rencontrés il y a quelques mois, Sébastien Némette. Le second a même choisi de s'installer juste à l'extérieur de Dadaab pour cette raison.
Ça a commencé en 2011 quand le Kenya a envoyé des troupes combattre le groupe en Somalie. Les Chebabs mettaient des explosifs sur les routes, attaquaient les véhicules, kidnappaient les gens. Le gouvernement s'en est même pris à nous. Il nous accusait d'être des criminels car nous sommes somaliens.
Un homonyme s'est fait abattre. Les tueurs se sont même excusés car ils pensaient que c'était moi. Donc en fait, les Chebabs m'ont déjà assassiné. J'ai alors dormi dans différents endroits chaque nuit, mais beaucoup de gens craignaient de m'abriter. Je n'avais pas le choix, j'ai déménagé ici. J'étais une cible parce que je suis un artiste.
Sébastien Némette, quel lien le gouvernement kényan fait-il alors entre le camp de Dadaab et le terrorisme qui peut le frapper régulièrement?
Bon, après chaque attaque d'importance que j'ai mentionnée plus tôt, le gouvernement a tendance à faire ce lien. Je cite l'exemple de Westgate en 2013. Nairobi avait déclaré que l'attaque avait été carrément planifiée depuis Dadaab et pendant une longue période. Là, pour le complexe du site, il y a un mois, à Nairobi, il semble qu'au moins un membre du commando soit passé par Dadaab, qu'il ait reçu un soutien matériel, logistique, avant de se rendre à Nairobi. Donc il y a une sorte de rhétorique du gouvernement kényan contre Dadaab après chaque attaque. Attaque importante. Nairobi utilise ces attentats un peu pour pointer du doigt Dadaab, mettre la pression sur les humanitaires pour que ce camp ferme. Mais il y a aussi une part d'intox. Hein. Pour Westgate, par exemple, le passage des terroristes par Dadaab n'a pas vraiment été prouvé. Hein. Les assaillants s'étaient plutôt entraînés en Somalie et à Nairobi même, à Isli, qui est le quartier somali de la capitale, Marie.
Qu'est-ce qu'on reprocherait à ce camp plutôt ? C'est d'être une base arrière des Chebabs ou alors un lieu de recrutement ?
Alors même s'il y a de l'intox du gouvernement kényan, une part d'exagération, il y a une part de vérité. Une base arrière, c'est je pense quand même aller trop loin. Les Chebabs, ils n'en ont pas forcément besoin. Ils peuvent s'entraîner sur le territoire qu'ils contrôlent en Somalie. Il y a quand même une présence policière à Dadaab, même s'il y a une criminalité assez forte dans le camp. Mais à Dadaab, tout le monde se connaît. Une base Chebab là-bas, où des terroristes s'entraîneraient, prépareraient des attaques, ça se saurait quand même rapidement. Ils utilisent plutôt Dadaab pour recruter. Faut dire que la pauvreté qui existe à Dadaab, le manque de perspectives d'avenir, d'emploi, d'éducation, l'impossibilité pour les réfugiés de pouvoir circuler librement, tout ça, ça crée chez eux un malaise qui peut être exploité par les Chebabs. Ils exécutent aussi des gens qui leur sont hostiles. Il y a parfois des attaques de véhicules, comme on l'a entendu, contre la police, l'armée, qui est vue comme une sorte d'envahisseur en Somalie depuis l'intervention kényane dans le pays en 2011.
Sarah Blin, votre ONG donc est présente à Dadaab depuis 2011. Vous avez constaté la dégradation des conditions de sécurité dans le camp. Et est-ce que ça a changé aussi votre façon de travailler ?
Alors, c'est un camp qui a toujours été compliqué en termes de sécurité, mais effectivement, depuis que le Al-Shabaab a pris de l'ampleur, le risque a évolué, on va dire. Donc nous, on travaille, en tout cas pour quand des humanitaires étrangers se déplacent dans le camp, on travaille avec une escorte policière. Mais Terre des Hommes, du fait du travail de proximité que l'on fait, nous, on se déplace dans les maisons. On est une des seules ONG à faire ça. Pour nous, c'est très important de pouvoir conserver cette proximité pour qu'on puisse vraiment faire notre travail. Et ça implique un certain nombre de risques, mais qui sont contrôlés grâce à tout un dispositif de renseignement qui est géré par les Nations Unies et par la police kényane. Voilà, effectivement, il y a des moments où on ne peut simplement pas se déplacer dans le camp parce qu'on sait qu'il y a une menace. Oui.
Pour conclure en quelques mots, Sébastien Nemeth, est-ce qu'on sait ce qu'envisage de faire le gouvernement kényan pour les réfugiés actuellement à Dadaab en cas de fermeture concrète du camp ?
Bon, c'est assez flou, hein, la lettre envoyée par le gouvernement kényan au HCR, elle n'est pas très claire. Le texte évoque d'abord, non pas un rapatriement, mais carrément un déplacement du camp Somali. Les affaires étrangères disent d'abord que le camp doit être délocalisé. Est-ce que ça veut dire qu'on refait un camp à l'identique en Somalie, je ne sais pas. Plus loin, il écrit fermeture du camp, relocalisation des réfugiés avec réintégration, libération en Somalie ou l'envoi dans une autre structure similaire dans le pays, comme si un peu toutes les options étaient sur la table. C'est peut-être un flou entretenu volontairement d'ailleurs pour laisser la place encore aux négociations avec les Nations Unies.
Donc on comprend en tout cas que l'entreprise est complexe et sensible grâce à vous. Merci Sébastien Nemeth, donc au correspondant permanent de RFI à Nairobi. Et merci Sarah Blin de l'ONG suisse Terre des Hommes au Kenya. Merci à toute l'équipe de décryptage, Éléonore Krenik, Laurent Sarniguet, Charles Barré et Fabrice Viollet à la réalisation. Tout de suite, un point sur l'actualité africaine.